Non, pas du tout. Je fais pas référence à M. Drainville. Je fais référence au fait que c'est tellement acquis et clair pour elle que ça n'a même pas été un sujet de campagne. Ça n'a même pas été un sujet sur lequel elle l'a abordé comme un sujet de campagne. On avance. Elle comprend l'importance. Elle voit l'importance pour le développement économique de notre région.
L'autre élément, c'est le troisième lien. On se souvient que Bernard Drainville persistait avec le projet qui est encore sur la table de lien central, alors que Christine Fréchette, elle voulait consulter, puis finalement a sorti un lapin de son chapeau en parlant d'un troisième lien qui serait plus à l'est, mais en partenariat public-privé. Ça aussi, ça semble satisfaire le maire Marchand.
Il sortira plus à Broussailles. Non. Fini ce temps-là.
Bien, sur la portion Vanier, pour nous, c'est des bonnes nouvelles. Après ça, le tracé central aurait pu bifurquer vers Robert Bourassa. Ça restait dans les cartons. On n'a pas vu le dernier travail qui a été fait par M. Julien parce qu'il avait décidé d'attendre la fin de la course. Mais sur le volet Sillery-Vanier et se rendre à la capitale, on ne voyait pas comment on pouvait faire des gains pour les gens de Québec. Maintenant, après ça, ils vont étudier la suite vers l'est, à eux de voir.
Le troisième lien n'a jamais été aussi invisible que là.
Puis Denis, elle va être là pendant 6 mois.
Ben oui, c'est ça.
On va en élection, on vote le début du mois d'octobre.
J'aime l'expression « assez trouvé une job d'été ».
C'est Marceau qui a dit ça au matin.
C'est brillant.
J'ai éclaté de rire. Là.
C'est ça. Il y a pire job d'été qu'être premier ministre, là, mais ça reste quand même une job d'été.
Il y en a un autre qui aujourd'hui va se retrouver avec une job minoritaire et une job majoritaire, vraisemblablement, parce que c'est 3 élections partielles qui se tiennent au fédéral aujourd'hui. 2 dans des comtés du secteur de Toronto, le siège de Bill Blair et celui de Chrystia Freeland. Et celui de Terrebonne qui risque de se faire encore une fois dans la confusion. Donc, ça prend seulement un siège supplémentaire pour que le Parti libéral de Mark Carney soit majoritaire. Mais as-tu vu que dans Terrebonne, ils votent sur un bulletin blanc?
Tu veux dire?
Terrebonne, d'abord, c'est une élection qu'on reprend parce qu'à la dernière élection générale, il y a un vote qui ne s'est pas rendu, erreur de code postal qui appartient au directeur général des élections. Fait qu'à la Cour, on a simplement dit on doit reprendre l'élection. Ça aurait été un résultat ex aequo pour le Bloc puis pour le Parti libéral. Donc, comme on savait qu'il y aurait cette élection-là, il y a une organisation qui fait de la pression qui s'appelle le comité du bulletin de vote le plus long. Eux autres, ce qu'ils veulent, dans le fond, c'est qu'ils veulent changer le système majoritaire uninominal à un tour, là, la manière de voter, la manière de comptabiliser tout ça. Fait qu'eux, à quelques reprises dans des partiels, il inscrivait le plus grand nombre de noms possible pour se retrouver avec des longs bulletins de vote. Là, cette fois-ci, on a comme fait « Hey, c'est pas vrai qu'on va les laisser faire ça. »
C'était pas 50 quelques patentes.
Exactement, la dernière fois.
C'était débile.
Fait que là, c'est un bulletin blanc où les gens qui vont se rendre dans l'isoloir à Terrebonne devront écrire le nom ou le nom de famille de la personne pour qui ils vont voter. T'écris juste le parti, ça ne passe pas.
Ah, ouais.
Fait que tu vas avoir une liste de noms des candidats.
Faut que t'écrives le nom.
Faut que t'écrives le nom. Fait que je me dis, tu sais, le dépouillement, ça va se passer comment? Puis, tu sais, de quel bord ça va pencher? Fait qu'encore une fois, on risque d'avoir un petit peu de chaos du côté de Terrebonne.
J'espère que pour le Parti libéral, on va être en mesure, avec ces 3 partiels-là, d'atteindre une majorité sans avoir eu de transfuge. Mais je pense que c'est pas ça, la réalité. Il y en a combien, là? Qui sont switchés, qui ont changé de place là, depuis, mettons, le début
en
du
fait,
règne de Mark Carney.
En général, de part et d'autre, là, il y a eu 5 transfuges. Je te dis pas qu'ils sont tous allés au Parti libéral. Là, il y a eu d'autres mouvements de mémoire. Là.
Parce que il y a quelque chose là-dedans de profondément antidémocratique. On a voté pour un gouvernement minoritaire. C'est comme rajouter des buts à la fin d'une game. Là. Ça se fait pas.
C'est-tu 4 transfuges conservateurs puis un NPD qui sont traversés? Me semble
les 5?
Ça. Me semble.
Donc, on va confirmer vraisemblablement une majorité avec une victoire de plus qu'on n'aurait jamais eue avec ces partiels-là, de toute façon.
Non, effectivement, ça aurait été un petit peu limite.
Hey, une élection dans Terrebonne, là, ouais. Au nombre de personnes qui ne savent pas lire et qui ne savent pas écrire, vont faire quoi, eux autres?
Je me suis tellement posé la question. Tu sais, des analphabètes fonctionnels.
50,
c'est encore un pourcentage élevé de la population.
C'est entre 40 et 50 de la population.
Fait que je sais pas, j'imagine que...
À ce point, là?
Oh oui. T'es pas allé sur Twitter récemment, toi?
Ouais, ça n'a pas de rapport. Mais des analphabètes fonctionnels, c'est ceux qui ont réussi à faire leur parcours jusqu'au maximum qu'ils pouvaient, que dans leur vie de tous les jours, ils sont capables de se débrouiller, mais ils ne pourront pas faire la lecture d'un texte complet, ils pourront pas parce qu'ils n'ont pas les capacités de le faire. Puis c'est beaucoup plus élevé qu'on pense.
Ah, oui.
À une autre époque... La joke, puis c'est parce que des gens n'avaient pas fini nécessairement leur secondaire parce que c'était pas obligatoire. Quand t'avais une personne âgée qui te demandait hey, « Peux-tu me lire ça? C'est trop petit. » C'était pas ça, c'est qu'ils savaient pas lire. Là, maintenant, c'est vraiment caractérisé comme étant de l'analphabétisme fonctionnel. C'est pas Jacques Demers qui est un analphabète fonctionnel?
Oui, absolument. Ben, lui, s'est rendu dans la Ligue nationale de hockey sans savoir lire puis en ayant des difficultés d'écriture.
La base, là.
D'ailleurs, Jacques Demers, vous le savez, là, il ne reviendra jamais comme il était avant. C'est malheureux. Hein? Je pense souvent à lui ces temps-ci.
Constamment, avec tous les records ces temps-ci, le nombre de fois où j'ai passé à Jacques Demers.
Puis lui, il aime ça, les bons petits bonhommes.
Hein? Oui.
Et il disait dans le temps, là, les petits gars gentils du Canadien, il aurait trippé
dessus.
Mais comment,
je m'excuse, parce que je reviens aux analphabètes, là. Oui. C'est accessible, l'école, chez nous?
Mais souvent, c'est même pas une question de scolarité. C'est une question de capacité. C'est pas que t'as pas fini tes cours. C'est que t'as réussi sur la fesse puis t'as des difficultés, par exemple, de compréhension. Puis il peut y avoir différents éléments à travers tout ça. Ça te ferait une belle entrevue d'open mic.
Mais c'est pas que je t'en ai dit. C'est-tu que t'es mal encadré, Motadine? Pas nécessairement. Aujourd'hui, on fait des miracles
comme,
avec des gens qui...
Tu sais, moi, tu peux... mon père m'a peut-être montré à poser un collet là, pour les lièvres.
Ouais.
Il m'a peut-être montré ça, j'avais 7 ans, là. Aujourd'hui, je suis pas capable de te faire un collet. Là. On me l'a déjà montré, mais j'en ai jamais fait puis je m'en suis jamais servi.
Parce que
le chiffre, c'est 53%.
Ah, pardon,
c'est plus qu'une personne sur deux au Québec qui est considérée comme étant analphabète fonctionnel. Donc, des personnes qui savent lire et écrire, mais incapables de comprendre des textes ou de gérer des informations écrites nécessaires à la vie quotidienne et professionnelle. C'est quelqu'un qui se fait proposer un contrat puis qui va le signer...
À l'aveugle, quasiment.
À l'aveugle, parce que t'es pas capable de le comprendre, oui. Puis je répète mon point. Allons-nous voir sur Twitter, puis il y a énormément d'analphabètes fonctionnels qui écrivent.
Mais t'es niaiseux.
Non, je suis pas niaiseux, je suis sérieux.
C'est pas des gens qui sont pas intelligents. C'est des gens qui vont développer d'autres aptitudes.
Ce que je trouve particulier, c'est que, par exemple, je connais quelqu'un qui est dysorthographique.
Ouais. Ça, c'est quoi, ça?
Qui a dysorthographique, c'est que tu vas mélanger, mettons, les...
Les B, les D, les...
Non, ça, c'est dyslexique. Ah. Dysorthographique, c'est vraiment, mettons, tu vas écrire au son, entre autres. C'est un des meilleurs exemples que je peux donner.
Okay.
Fait que les AI, mettons, maison, les AI, ben O-N, c'est toutes des affaires que tu comprends pas. Fait que, mettons, maison, tu vas peut-être écrire M-E accent grave.
Ouais.
Fait que tu comprends Z-O-N. T'écris au son, fait que bref, tu as des difficultés dyslexiques au final, ça rentre quand même là-dedans. Et puis c'est quelqu'un qui a d'autres troubles, bref, dérivés, qui a été très bien accompagné, qui a une certaine médication pour d'autres troubles, mais qui, avec cette médication-là, cette aide-là supplémentaire, le tutorat, ça en est excessivement bien sorti.
Oui, mais...
Fait qu'on dirait que je me dis comment? Et je trouve ça fascinant.
Quelqu'un qui lit pas, puis qui écrit pas, c'est comme mon exemple du collet tantôt.
Mais tu sais, on s'est fait tellement faire, les apprendre.
C'est des outils que tu ne te sers plus. Moi, redonne-moi un compas, là. J'étais capable de faire des beaux cercles en secondaire 3, là, mais je te garantis que, à part blesser quelqu'un avec un compas, présentement, je ne peux pas faire grand-chose.
Cette personne-là, ça risque d'être toi.
Oui, il y a des bonnes chances.
Ça fait full de sens. Je pense que c'est tellement quelque chose qu'on fait pendant des années et des années et des années, l'écriture et la lecture, parce que c'est la base un peu de notre système scolaire, que c'est comme une des dernières affaires auxquelles j'aurais pensé, surtout 53 de la population.
Ouais, c'est ce que je viens de voir comme chiffre. C'est énorme. 53% d'analphabètes fonctionnels au Québec. Les autres nouvelles?
Oui, il y en a quand même pas mal. On a un deuxième cas de rougeole qui a été confirmé dans la région de la capitale nationale. Ça a été déclaré le 12 avril dernier, donc hier. Et là, c'est la liste des places où la personne a circulé, parce que dans le fond, c'est la manière de procéder. C'est une maladie à déclaration obligatoire qui est excessivement contagieuse pour des gens qui sont soit vulnérables, soit mal protégés. Fait que si la dernière fois, quand on s'en est parlé, c'était dans une clinique puis dans un centre hospitalier, attachez votre tuque avec la broche. Le 6 avril, de 15h à 18h au Dollarama de la Plaza Laval dans le secteur de Sainte-Foy. Le 6 avril de 17h20 à 20h au Costco Sainte-Foy. Il n'y a pas de monde.
Ah ben non,
le 6
hein.
avril, il n'y a pas de monde, pas en tout. Le Winners des Galeries de la Capitale a été visité cette même journée de 18h à 21h, de même que le Maxi Chemin des Quatre Bourgeois le 8 avril de 21h15 à 23h30. Il y a aussi le tunnel qui relie le Centre intégré en cancérologie au bâtiment principal de l'Enfant Jésus, le département de radiologie de l'Hôpital de l'Enfant Jésus, la salle clinique A de l'hôpital de l'Enfant-Jésus, ça c'est les 7 et 8 avril, de même que finalement l'urgence du CHUL le 10 avril, fait qu'on procède de la même manière que la dernière fois. Vous avez été dans ces endroits-là, dans ces dates-là, puis vous avez des symptômes qui s'apparentent à la rougeole.
Niaisez pas avec ça.
Niaisez pas avec ça, levez la main. Le service de police de la ville de Lévis qui nous confirme qu'on a arrêté des individus en lien avec une introduction par effraction, puis ça a bien fait qu'on les pogne plus tôt que tard, parce que quand ils sont arrivés sur place après un appel au 911, ils ont arrêté 4 individus individus, un homme de 35 ans de Lévis, un homme de 25 ans de Saint-Hyacinthe, un homme de 22 ans de Longueuil et un homme de 19 ans de Yamachiche. Ils ont saisi, les policiers, une arme de poing chargée, des couteaux, des outils de cambriolage et du matériel incendiaire. Les quatre individus qui ont été détenus suite à leur interrogatoire, puis là, il y a une kyrielle d'accusations qui sont déposées contre eux, là. Harcèlement criminel, port d'armes dans un dessin dangereux, possession d'armes prohibées, et j'en passe. Et selon les policiers, l'événement pourrait être en lien avec le conflit armé qui sévit sur le territoire de la grande région de Québec. On s'est parlé il y a quelques semaines de ça, du procès de Raphaël Plamondon, qui est un détenu. Lui a des accusations de harcèlement et d'intimidation sur des agents correctionnels. Puis c'est un audio qui avait été partagé, qui avait été présenté au moment du procès. Lui se défendait tout seul, puis on l'entendait proférer ses menaces contre des agents carcéraux, dont un en particulier. Puis là, finalement, après deux semaines de procès absolument tout croche, parce qu'entre autres, il se défend seul, aujourd'hui, il a fini par plaider coupable. En fait, il a terminé en disant « Moi, j'ai terminé, c'est fini, je décalisse. Ah. » Fait que voilà.
Un bon cul-out.
Oui, le juge qui a cité l'homme de 37 ans aussi à procès pour outrage au tribunal en raison de son comportement en salle. Il insultait le procureur de la Couronne, traitait les témoins de menteurs. On avait dû lui adjoindre un avocat ami de la cour là, pour essayer de le gérer le mieux possible.
Je continue de ne pas comprendre pourquoi on poursuit des procès dans des circonstances comme ça. Si t'es pas en mesure de te défendre,